RCF.
L'Hebdo-Région, le magazine d'information proposé par les rédactions de vos radios chrétiennes en Pays de la Loire.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette Hebdo-Région. Alors comme chaque semaine, nous vous proposerons un petit tour d'horizon subjectif de ce qu'il fallait retenir dans l'actualité régionale. Et l'actualité de la semaine, eh bien, c'est la présentation officielle des premières étapes du 105e Tour de France 2018 qui s'élancera depuis le passage du Gois entre l'île de Noirmoutier en Vendée et le continent. Présentation du parcours avec Fanny Brevet de RCF Vendée. Direction la Sarthe ensuite, Aubery Métro de RCF Le Mans nous fera rencontrer deux Sartois qui ont la tête dans les étoiles. Ce sont des fans de l'astronaute Thomas Pesquet et depuis le début, ils suivent son aventure spatiale, quitte à s'en relever la nuit. Samuel Pecot de Fidélité Mayenne nous présentera une initiative lancée par sa propre radio à Laval, les premières rencontres sur la bibliothérapie. Alors pour faire simple, il s'agit des livres qui font du bien. Il nous expliquera pourquoi Fidélité Mayenne s'associe à cette manifestation. La pause spirituelle, nous la ferons en compagnie de Bastien Lallier de RCF Anjou et de son invité, le Père Boyer, qui nous rappellera l'importance du carême qui a commencé ce mercredi. Et enfin, nous nous intéresserons aux attentes des Ligériens de la société civile à propos de leurs attentes du prochain président de la République dans cette dernière rubrique « En route vers les présidentielles ». Voilà pour le sommaire de cette Hebdo-Région des Pays de la Loire sur vos radios chrétiennes.
L'Hebdo-Région, l'actu de la semaine.
Et pour cela, on retrouve Fanny Brevet de RCF Vendée. Bonjour Fanny.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Fanny, c'est officiel, pour la troisième fois de son histoire, le Tour de France partira du Gois en Vendée le 30 juin 2018.
Et ce sera le sixième départ de Vendée après 76, 93, 99, 2005 et 2011. Annonce faite mardi lors de la conférence de presse de présentation du grand départ de ce 105e Tour de France. Écoutez Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France.
D'abord, une volonté très forte exprimée par le département de la Vendée et la région Pays de la Loire d'avoir le Tour de France. C'est une volonté réitérée et ce sont aussi au bord des routes beaucoup de monde et beaucoup d'enthousiasme. C'est ensuite un vrai tissu de gens qui aiment le vélo, qui le pratiquent, qui le défendent. Ce sont des courses, ce sont des clubs, ce sont des formateurs et c'est très très important. Et puis ce sont enfin des images formidables et je pense naturellement au passage du Gois, cette route de 4 km qui relie l'île de Noirmoutier au continent, qui est une route envahie par la mer deux fois par jour, qui est absolument phénoménale et qui n'existe réellement nulle part au monde. La première image, la première impression, c'est toujours quelque chose qui compte. Et la première image, la première impression du Tour de France 2018, ce sera le passage du Gois partout dans le monde. Le Tour de France est repris dans 190 pays. 100 pays retransmettent les images en direct. Ils verront le Gois et le Gois, ça a de la gueule.
Mais après le passage du Gois, quel sera le parcours en Vendée ?
Alors le peloton longera le littoral vendéen jusqu'à l'Aiguillon-sur-Mer avant de rentrer dans les terres pour rejoindre Fontenay-le-Comte où sera adjugée l'arrivée de cette première étape de 195 km. Le lendemain, le 1er juillet, les coureurs partiront de Mouilleron-Saint-Germain, puis remonteront vers le nord du département, passeront par les Herbiers, Montaigu et redescendront par Aisnay pour une arrivée à La Roche.
Quel est le budget pour accueillir un grand départ du Tour de France, Fanny ?
La Vendée et la région Pays de la Loire vont débourser la somme de 3 millions d'euros, mais avec des retombées économiques et touristiques importantes, Yves Auvinet, président du conseil départemental, ne peut que se réjouir.
C'est effectivement un grand bonheur dans la mesure où on n'a pas pris d'abonnement, mais il y a un certain rythme depuis 25 ans qui fait qu'effectivement nous envisageons Tour de France plutôt en 2019, mais 2018, ça nous convient parfaitement et ça nous permet effectivement Vendée, terre de grands événements, après le Vendée Globe, de rebondir sur une manifestation internationale. Ce sont des retombées relativement importantes parce que le Tour se situe, est pratiquement dans le département pendant une petite semaine. Et donc, les retombées, elles sont effectivement au niveau restauration, au niveau hébergement, mais aussi plus largement au niveau du commerce, parce qu'en définitive, ça attire quand même une très forte population. Donc en termes de chiffres, je les ai pas en tête exactement, mais je crois qu'on doit avoir une retombée de l'ordre de 55 millions qui avait été estimée suite au départ du Tour de France en 2011.
Et Brian Coquard, sprinter de l'équipe vendéenne Direct Énergie, assistait aussi à la conférence de presse. Les deux étapes vendéennes semblent réservées à des sprinteurs. C'est donc avec le sourire que le coureur s'est présenté devant les journalistes.
Oui, vous avez raison, c'est un grand sourire parce que j'avoue que j'étais un petit peu déçu du tracé de 2017, ça passait pas trop dans la région et là par contre on est gâté avec 4 étapes presque dans la région et pas loin de la maison, donc ouais, ça fait plaisir. Il y a la première étape qui sera venteuse je le pense, mais avec impossible maillot jaune pour un sprinter, donc c'est il y aura au moins 2 jours pour pouvoir prendre le maillot jaune, donc c'est une aubaine pour un sprinter et pour un coureur d'avoir cette opportunité là. On n'est pas rendu là, mais c'est ouais, sur le papier c'est très agréable et en plus dans sa région ça motivera encore plus. Des routes que je connais totalement depuis on va dire une petite dizaine d'années et à travers mon apprentissage au Vendée U avec toutes les plages vendéennes et les courses dans la région et puis toutes les courses qu'on peut avoir aussi dans le coin depuis que je suis passé professionnel. Donc, et puis c'est mes routes d'entraînement aussi et presque de vacances aussi à la Baule. Donc tout est réuni pour que ce soit une belle édition et un super départ pour moi en 2018.
Et après la Vendée, les coureurs partiront vers les Mauges pour un contre-la-montre par équipe de 35 km autour de Cholet le 2 juillet, avant une 4e étape au départ de la Baule vers une destination encore inconnue. Le reste du tracé sera dévoilé le 17 octobre au Palais des Congrès à Paris.
En tout cas, rendez-vous à partir du 30 juin 2018 pour ce 105e Tour de France au départ du Gouas en Vendée. Merci beaucoup Fanny.
De rien et à bientôt.
À bientôt. Allez, on reste encore en Vendée avec le Puy du Fou qui poursuit son développement à l'international. Après les Pays-Bas et l'Angleterre, le parc vendéen vise l'Espagne et la Chine. En Espagne, les travaux devraient démarrer en 2019 à Tolède avec un investissement de 140 millions d'euros. Et en Chine, le site ne devrait pas voir le jour avant 2025. L'investissement avoisinera les 300 millions d'euros. Fleury Michon, toujours en Vendée, va lancer une nouvelle filière baptisée J'aime le poulet. Cette nouvelle gamme de produits ne comportera ni OGM ni antibiotiques. Cet engagement a été pris dans le cadre d'un partenariat avec Terena et 10 éleveurs de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres et de Vendée. Ces produits seront disponibles en magasin début avril. Direction la Sarthe maintenant pour la rencontre de la semaine.
L'Hebdo-Région, rencontre avec...
Et rencontre avec tout d'abord Aubery Métro de RCF Le Mans. Bonjour Aubery.
Bonjour Thomas.
Alors c'est pas vous qu'on va rencontrer Aubery, vous avez plutôt vous rencontré deux Sartois qui ont la tête dans les étoiles.
Eh oui, Alain Roche et Vincent Balestero sont tous les deux fous d'astronomie. Ils dirigent d'ailleurs le club de l'Université du Maine au Mans. Et autant vous dire que depuis que Thomas Pesquet est arrivé dans la station internationale, eh bien il ne manque aucune de ses aventures jusqu'à s'en relever au milieu de la nuit comme Alain Roche.
Je me suis réveillé, je sais pas, presque naturellement, en milieu de nuit. Je me suis dit, tiens, ça doit être l'heure où ils vont arriver dans la station. Je me suis levé, j'ai été me mettre sur mon ordinateur et je me suis mis en direct sur cette arrivée. Je me suis mis également à enregistrer les images que j'ai toujours. Et donc, j'ai assisté à cette ouverture du SAS pour qu'ils puissent rentrer dans la station ISS. Les embrassades avec les autres astronautes qui y étaient déjà, et puis ensuite la communication avec le sol, Thomas avec sa compagne, avec ses parents, avec son frère. C'était très émouvant de voir tout ça.
Et il faut dire que tout est fait pour que les passionnés, mais aussi le grand public, puissent au plus près suivre cette expérience scientifique. D'ailleurs Thomas, je suis certaine que vous êtes déjà allé rêver devant les photos postées par l'astronaute français sur les réseaux sociaux, comme celle de Nantes jeudi soir.
Oui, c'est vrai, d'accord. Je l'avoue, ces photos des villes du monde entier, et en particulier celle de Nantes, vue de l'espace en pleine nuit, c'est vraiment splendide. Mais Aubery, est-ce que les autres missions à l'intérieur de la station internationale étaient aussi suivies?
Eh bien, clairement, non. Là, rendez-vous compte, Thomas Pesquet est suivi par 1 100 000 personnes sur Facebook. Il a une véritable communauté de fans, Vincent Balestéros et Alain Roche. Eh bien, pour eux, c'est ça, la véritable prouesse de cette mission. C'est cet aspect de communication grand public qui restera au-delà des découvertes scientifiques.
C'est se mettre à la place du public et il a des fans. Nous les premiers, hein, on change nos emplois du temps par rapport à tel ou tel événement. Les gens trouvent en lui quelqu'un de sympa, et quelqu'un d'accessible par rapport à d'autres astronautes qu'il y a peut-être eu avant. On a l'occasion de le suivre vraiment en direct. Et lui, il s'investit vraiment pour que les gens aient le contact. Il envoie des photos, il envoie des messages. Donc, la communication est extraordinaire.
Mais avant, on avait l'habitude de voir quelques photos qui sont communiquées par la NASA, notamment. Mais là, que ce soit fait par un compatriote, qu'il communique directement avec nous, qu'il nous dit dans quelles conditions il fait ses photos, on a l'impression qu'on a affaire à quelqu'un de la famille, presque. Hein. C'est quelqu'un de chez nous et... ça nous parle énormément.
Et en plus, si vous téléchargez l'application ISS sur votre smartphone, eh bien vous avez accès à des caméras qui filment en direct tout ce qui se passe dans la station spatiale.
Et est-ce que tout ça a un impact sur le club d'astronomie de l'Université du Maine ?
Eh bien oui, car depuis la rentrée, le club a doublé son nombre d'adhérents.
On n'est pas les seuls passionnés dans le club à vouloir suivre ça. C'est vrai que lorsqu'il se passe un événement marquant dans cette station, notamment avec Thomas, on se réunit tous les mardis soirs, on communique avec les gens pour dire « Tiens, il y a eu la sortie de Thomas Pesquet, tiens, il y a eu tel événement ». On a un nouvel outil intéressant depuis maintenant presque 2 ans, c'est un planétarium. Et ce planétarium reporte un grand succès puisque on a des demandes qui émanent de différentes entités, des écoles, des communes, des associations.
Et les membres du club espèrent maintenant réussir à faire venir Thomas Pesquet au Mans pour une conférence, une fois qu'il sera revenu sur Terre. Un retour sur la Terre ferme qui est prévu dans le courant du mois de mai, Thomas.
Et je suppose que vous nous tiendrez au courant de ce retour sur Terre. Merci beaucoup, Aubery. Je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Thomas.
Alors, dans le reste de l'actualité sartoise, on reste sur le plancher des vaches avec Ouibus qui lance une nouvelle ligne de car à bas prix. Elle va relier Le Mans à Brest avec des étapes à Rennes, Saint-Brieuc, Guingamp et Morlaix. Les billets, 15€ pour Brest, 9€ pour Saint-Brieuc par exemple, sont déjà mis en vente pour des départs à partir du 31 mars. Et puis les récompenses pleuvent pour le Maine-et-Loire au Salon de l'Agriculture. Dimanche dernier, une exploitation des Mauges a obtenu la médaille d'or du concours des bovins. Et puis en ce qui concerne la Jersiaise, dans la catégorie des jeunes vaches, l'Anjou a fait carton plein. 3 éleveurs aux 3 premières places du classement. Je vous rappelle que le Maine-et-Loire est actuellement le 3e département agricole de France. Il représente 20 000 emplois pour 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et puis toujours dans le Maine-et-Loire, plus besoin de monnaie pour payer son stationnement. Grâce à son smartphone, c'est désormais possible à Angers, et ce depuis mercredi. Le paiement s'effectue via une application Pay by Phone. Avec inscription, cette plateforme vous propose de choisir la durée de votre stationnement, de le prolonger à distance et de programmer une alerte quelques minutes avant que votre ticket ne soit plus valide. Voilà, direction maintenant la Mayenne pour l'initiative de la semaine.
L'Hebdo-Région, initiative.
Et nous y retrouvons Samuel Pécaud de Fidélité Mayenne. Bonjour Samuel.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Samedi, Laval accueillera les premières rencontres sur la bibliothérapie. Alors pour faire simple, il s'agit des livres qui font du bien. C'est une initiative portée par Radio Fidélité Mayenne. Mais alors pourquoi votre radio organise-t-elle cet événement ?
Alors pour plusieurs raisons. Déjà, nous avons beaucoup d'émissions littéraires à l'antenne. Par exemple, chaque semaine, des auditeurs viennent nous parler de livres qu'ils ont lus et qui leur ont plu et qu'ils souhaitent donc partager avec les auditeurs. Nous avons aussi sur nos ondes des bénévoles qui font de la lecture à haute voix, ce qui est très apprécié, notamment par les auditeurs qui ont des problèmes de vue. Mais la vraie raison, c'est le dynamisme d'une bénévole de la radio, Véronique Slotnik. Elle est enseignante et les livres l'ont aidée à cheminer tout au long de sa vie. Voilà pourquoi elle a souhaité organiser ses rencontres sur la thérapie par le livre, la bibliothérapie, comme elle l'explique au micro de Jean-Yves Delors.
Je suis tombée dans les livres à 20 ans. À un moment où je changeais de vie, c'est-à-dire je passais du stade d'étudiante à jeune professionnelle, et je me suis raccrochée aux livres pour vivre ce nouveau départ. Et là, je me suis rendu compte combien les livres me permettaient de vivre, me permettaient d'ouvrir mon espace intérieur et permettaient de découvrir ce monde, d'aller jusque dans son cœur profond pour découvrir l'immensité qui s'ouvre à notre vie. Et j'avais envie de permettre à Radio Fidélité de pouvoir communiquer autour de ce livre, qui est quand même un vecteur culturel, un vecteur spirituel important. Ça rentrait complètement dans la ligne éditoriale de la radio.
C'est intéressant, mais concrètement, qu'est-ce qui va se passer samedi à la maison diocésaine de Laval?
Alors des rencontres avec une quinzaine d'auteurs, de renommée nationale pour certains, des auteurs mayennais aussi. L'idée, c'est à travers ces discussions de montrer l'importance du livre et de la lecture dans nos vies, comme elle l'a toujours été pour Véronique Slotnik, l'organisatrice.
Alors vous allez rencontrer des auteurs, mais aussi des éditeurs. Vous allez rencontrer des auteurs à la fois dans le domaine de la littérature, de la poésie, mais aussi de l'histoire. On va rencontrer des blogueurs qui sélectionnent des livres pour les enfants et les adolescents. Voilà, donc toutes les dimensions de la lecture seront honorées.
Et c'est ouvert à tous ?
Oui, bien sûr, on parlera aussi bien de spiritualité, d'histoire, de développement personnel que de poésie. Tout le monde y trouvera son compte, petit et grand lecteur.
Attention, on parle de textes, on parle de grands textes, on va parler des Tilsum, de Flannery O'Connor, on va parler de lecture spirituelle, de l'Évangile, on va parler de Marie-Noël, Philippe MacLeod, de Cécile Ladjali, Michael Uras, tous ces grands textes, toutes ces belles images qui peuvent nous éveiller, qui peuvent nous faire bouger, qui peuvent nous faire grandir.
Eh bien, nous vous souhaitons un bon succès pour ces premières rencontres autour de la bibliothérapie. Elles se tiennent donc ce samedi jusqu'à 20h30 à la maison diocésaine de Laval.
Merci Thomas, venez nombreux, on compte sur vous hein, et vous trouverez le programme complet de ces rencontres sur la bibliothérapie sur notre site internet www.fidelitemayenne.fr.
Merci beaucoup Samuel, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Allez maintenant, chers amis auditeurs, direction le Maine-et-Loire pour y faire la pause spirituelle. Nous y retrouvons Bastien Lallier de RCF Anjou. Bonjour Bastien.
Et bonjour Thomas, bonjour à tous.
Alors ce mercredi, nous sommes entrés en période de carême, un temps important de l'année liturgique.
Et oui, pendant 40 jours jusqu'à Pâques, les catholiques du monde entier sont invités à jeûner. Jeûner pour se libérer du superflu et se recentrer sur sa relation à Dieu et aux autres. Le père Vianney Bouillet est le curé de la paroisse de Saint-Martin-des-Champs à Angers.
Au fond, c'est une attitude de toutes les grandes religions. C'est-à-dire, c'est je me prive de nourriture, donc je suis maître un peu de mon ventre. Je me prive de nourriture et je rejoins ceux qui ne mangent pas tous les jours, et Dieu sait s'il y en a. Et puis, je me prive de nourriture, ça veut dire je suis un peu maître de moi, je décide que je peux me priver. Voilà, c'est les trois choses à la fois. Et bon, alors j'ai parlé de la nourriture, mais au fond, aujourd'hui, est-ce que certains jeunes et nous-mêmes, on pourrait pas se priver un peu de téléphone portable dans la journée, se priver d'envoyer des mails, se priver de les lire, on peut se priver de tas de choses qui font de nous des prisonniers. Moi, par exemple, je sais que je suis assez tenté par la télévision, je la mets très facilement. Et ben, j'espère que je vais faire un petit effort pendant le carême pour pas me laisser dominer, voilà. C'est aménager son quotidien autrement. C'est-à-dire, si je fais que de me priver de manger, ben, ma foi, oui. Mais si, par exemple, me prive de manger pour partager ou pour faire autre chose à la place de mon repas. Quand j'étais au séminaire, j'ai connu des garçons qui venaient pas manger avec la communauté les vendredis de carême, mais ils en profitaient pour passer plus de temps à la chapelle avec Dieu. C'était beau.
Oui, c'était beau, mais exigeant, car le plus dur, c'est bien de se tenir à tous ces petits changements du quotidien.
Oui, pour une part, c'est dur le carême, parce que ben on se retrouve face à soi et on est obligé de se demander qu'est-ce que je vais changer pour être selon l'Évangile. Et alors bon, il y a des gens qui aiment déménager, il y en a d'autres qui n'aiment pas déménager. Alors ça dépend des caractères, mais changer, c'est exigeant. Ça veut dire que je vais laisser des choses, que je vais renoncer peut-être à des choses qui m'emprisonnent. Et on sort pas toujours de sa prison joyeusement. On est quelquefois un peu retenu par des tas de liens qui nous empêchent d'être des hommes et des femmes libres, heureux et évangéliques. Jésus a été le premier à en passer par là. Il a vécu une vie très exigeante pour lui-même quand il est parti sur les routes annoncer l'Évangile. Il a laissé derrière lui Nazareth, son travail, sa famille, ses amis. Il a été tenté sur le pouvoir, l'avoir, comme tous les hommes de tous les temps. Et il en est sorti victorieux par son grand amour de Dieu. Et ben, nous, on prend le même chemin. Alors, ben, c'est pas rigolo tous les jours.
Alors, pas rigolo tous les jours. Néanmoins, le carême reste tout de même une période joyeuse, Père Bouillet.
Oui, il y a une joie dans le carême. À condition que ça soit qu'on ne cherche pas une joie de surface, une joie éphémère, une joie superficielle, ou comme dirait notre pape François, une joie mondaine. Mais qu'on cherche la joie de ceux qui se donnent. la joie de ceux qui se privent pour les autres, la joie de ceux qui sont fatigués pour les autres. On peut être heureux d'être fatigué, parce qu'on a donné sa journée pour les autres. On peut être heureux d'avoir faim, parce qu'on a partagé avec les autres. On peut être heureux de sentir plus fort dans son cœur la souffrance de la terre, la souffrance des hommes, parce qu'on sent qu'on est vraiment frère, qu'on devient vraiment frère. Il y a tellement de gens, tellement de misère qui nous assaillent autour de nous que si on n'éprouve pas un petit peu ça dans notre chair, dans notre corps, dans notre temps, qu'est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qu'on est ? Des gens qui vivent à la surface finalement, qui ne veulent pas être frères des autres, des plus pauvres, de la grande masse.
Alors à tous ceux qui se sentent concernés, nous pouvons souhaiter Thomas du courage parce qu'il en faut et bien sûr un joyeux carême.
Joyeux carême à vous aussi Bastien et puis notez également que ce dimanche c'est l'appel décisif des catéchumènes. Ils seront 31 à Angers et la cérémonie aura lieu à 18h en l'église Sainte-Thérèse. On s'intéresse au reste de l'actualité des diocèses, on se dirige vers celui du Mans et pour la première fois le diocèse du Mans organise ce samedi une journée pour les futurs mariés. Ils se retrouvent pour partager leurs expériences et leurs témoignages autour d'ateliers. Une célébration est aussi prévue avec les futurs baptisés qui participent, eux, à l'appel décisif. Il sera célébré samedi à 16h30 en l'église Saint-Liboire par Monseigneur Le Sceau. 36 adultes sont concernés cette année. Allez, bientôt la fin de cette hebdo-région des Pays de la Loire et on s'intéresse à notre dernière rubrique En route vers les présidentielles.
En route vers les présidentielles.
Et pour cette dernière rubrique durant laquelle nous donnons la parole aux acteurs régionaux de la société civile à propos de leurs attentes du prochain président de la République, eh bien nous retrouvons Samuel Pécaud de Fidélité Mayenne.
Oui Thomas, je suis effectivement avec Maxime Lebigot qui est le président de la toute jeune association des citoyens contre les déserts médicaux. Et effectivement, il faut le rappeler, la Mayenne est un désert médical, le troisième désert médical de France. Maxime Lebigot, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter de vous prêter à cet exercice. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la première question. Quels sont selon vous les enjeux justement de la présidentielle pour la démographie médicale en France et notamment dans les Pays de la Loire ?
C'est de mettre en évidence d'une part que les déserts médicaux sont provoqués par une mauvaise répartition des médecins aujourd'hui sur le territoire français et d'autre part l'impérieuse nécessité de corriger ce phénomène. C'est vrai qu'il faut rappeler quand même que tous les Françaises et Français sont égaux devant le soin et ont les mêmes droits à la santé.
Alors justement, qu'est-ce que vous attendez du prochain gouvernement ?
C'est qu'il organise déjà une concertation avec l'ensemble des professionnels de santé, l'ordre des médecins, l'ordre des infirmiers également, parce qu'on a un tout jeune ordre au niveau des infirmiers, les kinésithérapeutes, l'ensemble des professionnels de santé pour discuter d'un éventuel maillage du territoire comme c'est déjà fait pour les pharmaciens. C'est vrai qu'il faut qu'ils prennent des mesures éventuellement contraignantes plutôt que des incitations financières qui ont des limites. Quoi. On peut voir que par endroit ça fonctionne, mais ça a quand même des limites. Donc c'est vraiment la priorité, la concertation et aussi peut-être mettre en premier plan la médecine de prévention aussi parce que on peut voir que dans le milieu scolaire, dans le milieu du travail, la médecine travail, la médecine scolaire est en train de disparaître petit à petit. Donc ça c'est vraiment important que la prévention soit aussi au cœur du système de santé pour éventuellement réduire les frais de santé par la suite.
Alors Maxime Lebigot, dernière question, troisième et dernière question. Si vous étiez élu président de la République le 7 mai prochain, quelle serait votre première mesure en tant que président ?
Ça serait, voilà, comme le prochain gouvernement, ça serait de faire une concertation très rapidement avec l'ensemble des professionnels de santé pour discuter d'éventuelles mesures coercitives, de conventionnement sélectif, comme ça avait été proposé lors de l'examen de projet de loi de la financement de la sécurité sociale, pour que les médecins prennent conscience que, certes, c'est des médecins libéraux, ils ont la liberté de s'installer, mais il faut que les citoyennes et les citoyens aient accès aux soins de façon égale.
Qu'est-ce que vous proposeriez très très concrètement, plus concrètement que cette rencontre justement entre les professionnels de santé ?
Le même fonctionnement de maillage que les pharmaciens, pour que au niveau du territoire, les médecins soient répartis de façon équitable.
Merci Maxime Lebigot, je rappelle que vous êtes le président de l'association des citoyens contre les déserts médicaux, une association qui a tout juste 3 mois et dont le siège est donc à Laval, en Mayenne. Merci.
Merci.
Merci beaucoup Samuel Pécaud donc de Fidélité Mayenne. Je vous donne rendez-vous à partir de la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique En route vers les présidentielles. Et il est l'heure maintenant de se quitter. C'est la fin de cette hebdo-région des Pays de la Loire qui vous était présentée par la rédaction de RCF Vendée avec l'aide des rédactions de vos radios chrétiennes des Pays de la Loire. Merci à tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine.